quand même une éducation à faire quand on parle de marque employeur à la base, de ce que c'est plus qu'une histoire d'image. Puis c'est un grand projet. Ça peut être une condition de succès ou d'échec, en fait, là, cette participation-là des gestionnaires au projet.
Elle, c'est la seule et unique Andréane Thibault, leader en talent et culture et collaboratrice de longue date du podcast, donc vous l'avez déjà entendu. Dans le cadre du balado de cette semaine, on discute de l'impact des gestionnaires dans la marque employeur d'une organisation. Sans l'ombre d'un doute, un des éléments les plus impactants en matière de marque employeur. En réalité, selon une étude menée par Gallup, les gestionnaires sont à l'origine de 70 % des variations de l'engagement des employés au travail. Ça, c'est un des éléments forts de l'expérience employée qui est aussi au cœur de la marque employeur. Donc, deux choses qu'on aborde dans le cadre du balado. La première, la participation et l'implication des gestionnaires dans un projet de marque employeur. Évidemment, la deuxième, c'est de mettre les gestionnaires au cœur de sa stratégie d'expérience employée. Donc, une autre belle discussion avec ma collègue, Andréane Thibault. Bonne écoute!
Check 1, 2. Check, check, 1, 2. Bienvenue au balado, le temps d'une pause RH. Le meilleur balado sur la gestion des ressources humaines. Voici Nicolas Roy, chef de la direction chez EPSI. Nicolas, c'est à toi.
Bonjour Andréane Thibault, bienvenue au temps d'une pause RH.
Merci Nicolas, ça fait longtemps on dirait.
C'est vrai, ça fait un petit bout de temps, mais sais-tu quoi? Parfois, là, le temps amène bien des choses intéressantes. Puis aujourd'hui, avec toi, je sais qu'on va discuter d'un sujet qui est fort intéressant, dans lequel on a la chance, nous deux, de naviguer beaucoup, je dirais, dans la dernière année, surtout dans la dernière année et demie, parce qu'on a eu la chance avec Culture Inc., une firme vraiment qui se spécialise dans la marque employeur, dans le fond, d'accompagner beaucoup d'organisations à consolider leur marque employeur, à la renforcer, des fois même la développer parce qu'il n'y a pas nécessairement une marque employeur très, très bien définie. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va parler d'un constat qu'on a fait dans notre accompagnement, un constat qu'on voyait beaucoup en chiffres dans les différentes études. Puis aujourd'hui, on va parler avec toi, Andréane, de l'apport des gestionnaires dans la marque employeur.
Bien, on le vit puis on accompagne des clients qui, eux, le vivent encore plus que nous. Là. Il y a quand même une éducation à faire quand on parle de marque employeur à la base de ce que c'est plus qu'une histoire d'image. Là. Puis c'est un grand projet, puis typiquement plus grande ou complexe est l'organisation, plus long le projet est, donc plusieurs mois, même plus qu'une année là, dans certains cas. Puis disons, ça peut être une condition de succès ou d'échec, en fait, là, cette participation-là des gestionnaires au projet. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler.
Super. Parce qu'on rappelle, dans le fond, à nos auditrices et nos auditeurs que la marque employeur, essentiellement, ça vise trois choses. Donc, attirer, fidéliser puis mobiliser, dans le fond, de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est hyper important de le rappeler parce que le gestionnaire est vraiment au cœur, dans le fond, de ces trois éléments-là, on ne se le cachera pas. Fait qu'on entend souvent l'adage, on quitte une organisation à cause, dans le fond, d'un mauvais gestionnaire. T'en penses quoi de ça?
Bien, c'est sûr que personnellement, je suis d'accord avec ça, mais aussi dans nos entourages respectifs, amis ou collègues qui ont été dans d'autres emplois précédemment, c'est souvent le cas. C'est pas la seule raison, mais c'est une bonne partie de la raison. Chaque équipe est un peu teintée par le gestionnaire qui est présent, en fait. Donc, ça peut être teinté positivement ou pas. Ça fait qu'il y a des micro-cultures. Le gestionnaire est un pilier de cette expérience employée-là et ultimement de la marque employeur. Puis oui, typiquement, ce sont souvent les personnes en ressources humaines, l'équipe, une personne ou la direction qui veut initier un projet de marque employeur. Puis ça ne vient pas nécessairement systématiquement des gestionnaires, mais après tout, surtout avec la définition qu'on en fait, là, attirer, fidéliser, mobiliser. Au day-to-day, c'est eux qui travaillent avec, ce sont eux qui travaillent avec les employés. Donc, l'équipe RH, oui, bon, elle intervient à certains moments de ce cycle candidat-employé-là, mais au day-to-day, ils sont avec ces gestionnaires-là. Donc, si les gestionnaires ne comprennent pas leur rôle, prennent pas leur part de responsabilité, les décisions, prennent pas le temps de comprendre leur rôle dans l'expérience employée puis de mettre des actions en branle, je vous dis tout de suite, c'est presque sûr que c'est voué à l'échec, le projet de marque employeur. Donc, ça peut être très, très dommageable. On parle, bon, c'est un gros projet, il y a beaucoup de ressources, de temps, d'argent impliqués dans ça, mais si on veut que ça fonctionne, il faut que les gestionnaires soient impliqués dans le processus, puis pas juste la communication ici et là par courriel. Il faut vraiment les sensibiliser beaucoup plus que ça, les informer, puis écouter ce qu'ils ont à dire pour justement peut-être désamorcer des réticences si c'est le cas, là.
Dans un contexte où, surtout dans le contexte actuel, où la charge de travail des gestionnaires est déjà quand même, je dirais, assez élevée, comment un gestionnaire peut percevoir, dans le fond, peut-être le travail supplémentaire qu'on va lui demander en étant impliqué dans un projet comme ça? Est-ce qu'il y a des façons de faire pour une organisation, pour les inclure, pour peut-être amener les gestionnaires à penser à l'après, au sens où des fois, c'est un coût à donner, mais l'après, dans le fond, apport va amener des résultats positifs pour lui, pour sa santé mentale, pour sa productivité? Je me trompe-tu en disant ça, Adrienne?
Bien, évidemment que nous, on le voit, mais eux, peut-être qu'ils ne le voient pas. Puis dans une réalité où on a des feux à éteindre, c'est souvent ça, puis chaque jour, il y a des urgences, puis les opérations prennent le dessus, c'est sûr que des projets plus moyen-long terme comme ça peuvent être facilement mis de côté. Et il y a certains gestionnaires qui peuvent voir ça comme, oui, un fardeau, si on veut, supplémentaire de s'attarder à ça, parce que oui, ça va prendre du temps. On ne se fera pas de cachette, là. Ça va prendre du temps. Mais il faut le rattacher à des arguments, le « what's in it for them ». Dans leurs équipes, qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir une meilleure marque employeur, une meilleure expérience employée? Oui, en termes de tâches, responsabilités, mais qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner de le faire? Puis tant que ce « what's in it for them-là » n'est pas clair, ça va être très difficile de les mobiliser. Donc, si on pense peut-être à un chef d'équipe ou superviseur plus plancher, exemple un milieu industriel, ben, c'est de leur amener à voir qu'il va conserver l'expertise spécifique dans son équipe, qu'il va avoir moins de formations à donner, moins de problèmes, de plaintes de clients, parce que bon, il y a des employés qui restent versus avoir toujours des nouveaux. Là. C'est sûr que la courbe d'apprentissage est là, puis il y a un risque d'erreur, qu'il y ait moins d'absentéisme. Il y a plein de choses qu'on peut rattacher pour que ça fasse du sens pour eux d'investir des efforts supplémentaires puis de redispatcher, si on veut, leur temps, parce qu'il n'y a pas plus de temps, là, en fait, là, c'est ça aussi. Là. Donc, comment on peut les encourager à reprioriser des choses pour que l'expérience employée devienne un focus pour eux? Il faut le rattacher à quelque chose, sinon ça peut être un peu 20 000 pieds là, dans les airs, puis peut-être pas assez concret pour eux, puis peut-être que c'est normal qu'ils voient ça comme un projet RH ou que c'est pas dans ma cour.
Oui, parce qu'on va se le dire, les gestionnaires, c'est un peu une courroie de transmission entre la haute direction puis les employés comme tels, donc évidemment, le rôle-là, il est déjà d'entrée de jeu très fort. Donc, dans un projet comme ça, où on veut changer un peu la culture organisationnelle, on veut améliorer l'expérience employée, évidemment, ils sont au centre de ça aussi. Hein. Les gestionnaires sont un peu ce sont des catalyseurs un peu de l'expérience employée à certaines mesures. Là.
100%. Puis, comme je disais, ben, positivement ou négativement. Là. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ça ou ne faites pas d'efforts pour des efforts envers ces gestionnaires-là dans le projet, vous risquez que ça soit un coup d'épée dans l'eau, là, puis que peut-être même que ça soit plus dommageable que de n'avoir rien fait, en fait. Puis à un certain moment aussi, là, les conditions, c'est une chose, mais la relation avec le gestionnaire, ça y est pour beaucoup là, dans une expérience employée. Puis probablement que si vous avez déjà fait l'exercice décortiquer votre taux de roulement, analyser les causes de départ ou bon, ce qui sort en entrevue de départ, il y a des bonnes chances que dans les équipes où il y a un plus grand roulement, plus de départ ou bon, peut-être plus d'invalidité, il y a peut-être des bonnes chances que ça soit encore en lien avec le ou la gestionnaire qui est dans cette équipe-là. Donc, je pense que c'est triplement important dans ces équipes-là de prendre plus de temps avec ces gestionnaires-là pour les sensibiliser au lien justement entre ces indicateurs-là, puis leur rôle dans l'expérience employée. Puis, je ne dis pas que c'est juste en communiquant que ça va tout régler, parce qu'il y a quand même un pourcentage qui risque de rester réticent à embarquer dans un projet comme ça, mais la première étape, ça reste de le rattacher au pourquoi de le faire, en fait.
Puis en général, là, si on ne parle que du rôle du gestionnaire, puis c'est pour revenir un peu dans le fond à l'adage qu'on a parlé tantôt, là, donc on ne quitte pas une organisation, mais on quitte un mauvais gestionnaire. Là. Pour moi, il y a des facteurs qui sont hyper importants là-dessus, qui sont à la base de plusieurs symptômes qu'on voit. Tu as parlé de taux de roulement comme tel, cause de départ, etc. Donc, ça pour moi, puis nous, on le voit régulièrement. Là. On peut parler de micro-gestion, on peut parler de communication limitée, on peut parler de manque de reconnaissance, d'absence d'écoute active, on peut parler d'un changement de priorité qui survient constamment. Donc, on est constamment dans un mode où on change les priorités. Puis, des fois, même l'attitude comme telle d'un gestionnaire a un impact. Quelqu'un qui a une attitude plutôt négative par rapport au travail, par rapport à la vie en organisation, si on veut, ça déteint quand même sur sa force de travail. On ne se le cachera pas, là.
Je pense entre autres aux micro-gestionnaires, qui est à mon avis un fléau. C'est encore extrêmement présent, mais puis c'est assurément une cause de départ. Là. Peut-être qu'il y a quelques exceptions de gens qui aiment ça, se faire gérer, serrer comme ça. Là. Mais bref, les raisons et les causes, il y en a plein, mais ça reste qu'il faut s'attarder au pourquoi, mais ensuite le comment. Là. Comment les impliquer dans ça, puis quels sont... quelques bonnes pratiques pour le faire.
Parlant de bonnes pratiques, parce que tu viens d'ouvrir un peu la porte comme telle. Donc, et pour faire un lien avec ce qu'on vient de discuter, moi, ce que j'entends, Andréane, de ce qu'on discute aujourd'hui, c'est qu'il faut investir aussi dans ces gestionnaires, d'un, pour qu'ils acceptent et qu'ils embarquent dans un projet comme ça, mais pour qu'ultimement, ils se développent comme individus, comme professionnels, comme leaders, justement pour amener les autres à les suivre. Là. Je me trompe pas en disant ça.
Non, pas du tout. Puis on dirait qu'on fait souvent le clash employé-gestionnaire. Tu sais, oui, ils ont des réalités différentes, mais à la base, les deux, ce sont des employés aussi. Ouais. Mais avant tout, des humains. Donc, ouais, ce sont des humains qui ont des besoins, des forces, des faiblesses, des peurs, des insécurités. Puis ils ont, comme on a déjà dit, beaucoup de pression sur les épaules. Donc, il faut prendre ça en considération dans l'équation. Puis je trouve que des fois, c'est pas assez fait. Puis là, nouvellement, on commence à parler de plus en plus de l'expérience gestionnaire, et tant mieux, comme si l'expérience employée, ça les concernait pas. en fait, ils sont aussi employés, donc eux aussi ont probablement leur frustration, puis des besoins qui sont non comblés, auxquels il faut s'attarder. Là. Donc, dans les bonnes pratiques, ça serait aussi de s'attarder à leur expérience comme gestionnaire. Puis la formule est sensiblement la même. Là. Vous prenez le pouls avec les gestionnaires, que ce soit sondage, entrevue, groupe de discussion, voir ce qui va bien, va moins bien, puis trouver des solutions avec eux à leurs enjeux. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'un gestionnaire qui était peut-être réticent au début à s'attaquer avec vous, à améliorer l'expérience employée, ben, si eux, ils vivent de leur côté le processus, donc ils vivent que vous prenez le temps d'écouter leurs enjeux, trouver des solutions avec eux, il y a probablement plus de chances qu'ils comprennent le pourquoi derrière et vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté qu'ils souhaitent collaborer à refaire l'exercice, mais avec leurs employés. Donc, l'expérience gestionnaire, c'est un incontournable, à mon avis. Puis, ce n'est pas toutes les organisations qui sont encore mûres pour ça, mais moi, je pense que c'est un incontournable. Donc ça, ça serait une bonne pratique. La deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, là, rattacher le « what's in it for them ». Donc vraiment, avoir un plan de communication au départ qui va être adapté aux différents personas, si on veut, de votre organisation. Donc, si vous parlez à un gestionnaire plancher, peut-être qu'il va avoir des arguments qui le touchent lui plus. Si c'est la haute direction, il va avoir d'autres arguments. Donc, vraiment adapter son argumentaire selon notre interlocuteur, en fait. Là. Varier les stratégies de communication, parce que la communication en amont, c'est une chose. Pendant le projet, c'en est une autre. Mais les gestionnaires, il y a des bonnes chances qu'ils ont plus que 2-3 courriels qui rentrent dans une journée. Donc, quand même que votre courriel est très bien écrit, le ton est là, le choix des mots, s'ils ne le lisent pas ou ils n'ont pas le temps de le lire, on ne peut pas leur en vouloir de croire qu'ils n'ont pas été suffisamment, qu'on ne leur a pas communiqué suffisamment le projet ou comme il faut. Là. Donc, variez vos stratégies pour communiquer le projet avec eux. Courriel, intranet, mais idéalement des rencontres là, pour garder ça vivant, répondre à leurs questions, voir, ah, OK, il y avait un non-verbal, il y avait une interrogation. C'est vraiment pour désamorcer en temps réel plus que juste par écrit. Là. Donc, ça, c'est une chose. Ceux qui demeurent résistants en cours du projet, là, même après la communication. Là, disons là, que la communication était très bonne et malgré ça, ne souhaite pas embarquer dans le projet, bien, il faut quand même prendre le temps de comprendre la résistance derrière ça. Donc, est-ce qu'ils continuent de croire que ça va être des responsabilités de plus? Est-ce qu'ils ont peur que si, exemple, on fait un sondage ou on consulte les gens, il y a des choses négatives qui vont sortir de leur équipe et là, ils vont être blâmés, bon, ils vont avoir des responsabilités, puis il va avoir des impacts pour eux, donc il y a des bonnes chances, mais il faut désamorcer ça. Une autre avenue intéressante à voir, là, mais ce serait peut-être de faire un projet pilote dans un secteur, puis de voir un peu comment ça s'est passé, d'apprendre de ses erreurs à petite échelle avant d'y aller at large là, pour peut-être une plus grosse organisation ou une organisation qui est plus craintive là, d'embarquer dans un gros projet comme ça. Donc, on crée des petites victoires, on apprend de comment ça s'est passé, puis après ça, on dit « OK, parfait, on est prêt, on est mûr à le déployer à l'organisation au sens large. » Puis, peut-être un partage de bonnes pratiques inter-équipe. Il y a des équipes probablement que ça va vraiment mieux que d'autres. Donc, même s'ils ont des réalités différentes, il y a probablement des pratiques relativement simples qui peuvent se partager là, d'un gestionnaire à l'autre. Donc, puis justement, de les mettre en contact ensemble pour faire ce partage de pratiques-là. Des fois, on pense que ça se fait, mais ils n'ont même pas nécessairement l'occasion de travailler ensemble si un, je ne sais pas, est en production, puis l'autre est dans le côté plus administratif. C'est des réalités très différentes. Ils ne se croisent pas nécessairement beaucoup au quotidien. Ceci dit, ils ont peut-être des bonnes pratiques. Le matin, je ne sais pas, peut-être que c'est un enjeu de reconnaissance, puis que je ne sais pas, le gestionnaire, chaque matin, il parle d'un bon coup de la veille. T'sais. Même si c'est des réalités différentes, on se comprend que la reconnaissance, c'est de la reconnaissance. Là. Il y a des bonnes pratiques, puis je pense que ça peut être rapidement déployé. Donc, l'idée, c'est de créer des petits... Je reviens toujours à ça, là, mais des petites victoires. Puis là, ça va donner du momentum. Donc, de voir, OK, bien finalement, j'étais un peu sceptique, j'ai essayé telle pratique que telle personne m'a donnée, puis ça semble fonctionner bien. Donc là, les gestionnaires peut-être plus réfractaires prennent confiance et là, se sentent peut-être plus mûrs pour attaquer des plus gros projets d'envergure, là, parce que c'est sûr que dans un projet de marque employeur, il y a des éléments négatifs qui vont sortir, puis il y en a des plus simples à régler, des moyennement simples, des complexes, des très complexes. Là. Donc, peut-être d'y aller en étapes pour eux, puis de marcher, de monter les marches une à la fois, ça va leur donner de l'espoir puis confiance en eux. Puis je dirais qu'avec tout ça, vous êtes bien équipés pour les mettre de votre côté pour un projet comme ça.
Ça résonne ce que tu me dis, puis en même temps, je peux comprendre que certains gestionnaires peuvent être craintifs par rapport à un exercice comme ça, mais je soulignerais qu'un bon gestionnaire puis un bon leader, il faut qu'ils soient en mesure de faire preuve d'humilité d'introspection, oh oui. Puis d'être tourné vers l'avenir, justement, pour être capable de se développer, de s'améliorer. Puis c'est comme ça un peu qu'on est capable de transformer une organisation, une culture, puis ultimement, avoir cet impact-là qu'on veut sur la marque employeur d'une organisation.
Mais l'humilité en soi, c'est tout un sujet là, qu'on pourrait en parler des heures. Puis, mais oui, c'est typiquement une crainte là, que le... Ce qui va sortir de négatif, c'est très confrontant pour certaines personnes de reconnaître leur responsabilité dans ça. Donc, c'est tout naturel, là. C'est humain aussi de dire, OK, ben j'ai peut-être pas le goût qu'à grande échelle, on voit que ça va bien dans toute l'organisation, sauf dans mon département, ou que je suis le pire département de. Puis, donc, c'est juste humain que ces personnes-là, que certaines personnes, du moins, pensent comme ça. Là. Donc, ça s'apprend, ceci dit. Puis, je pense que la haute direction doit donner le ton dans ça. Là. Donc, eux-mêmes commencent par reconnaître, OK, oui, dans la dernière année, il y a eu un laisser-aller là-dessus, ou tu sais, on vous entend, on va travailler là-dessus pour qu'après ça, cette ouverture, cette cascade jusqu'au gestionnaire peut-être plus bas. Donc, c'est inspirant quand même de voir quand la haute direction le fait, de dire, OK, ben moi, je n'étais pas à l'aise, mais eux, ils l'ont fait, puis disons qu'il y avait des plus grandes implications que moi dans mon équipe. Puis on sous-estime, mais c'est très inspirant pour des employés de voir un gestionnaire pas nécessairement faire une erreur, mais apprendre, de voir que notre gestionnaire le reconnaît puis qu'il veut apprendre de ça puis qu'il est ouvert. En tout cas, pour l'avoir vécu, moi, je trouve que c'est très mobilisant et inspirant. Là. Donc, c'est pas confortable. Non, ce n'est pas confortable, mais est-ce que c'est pertinent puis efficace? Assurément.
Excellent. Est-ce que tu avais un dernier mot de la fin que tu voulais laisser à nos auditrices puis nos auditeurs, Andréane?
Bien, assurément. Je pense que je n'ai jamais fait ça dans l'histoire que j'ai participé au podcast ensemble. Mais si jamais vous souhaitez, c'est l'heure du pitch. Non, mais si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans un projet de marque employeur, ça va nous faire plaisir. On est déjà dans ça depuis un an et demi, un peu plus qu'un an et demi, puis ça nous fait vraiment plaisir. Moi, j'adore prendre part à un changement de culture. Je trouve ça extrêmement enrichissant, valorisant et tout ça. Puis doublement, si vous voulez aussi vous attarder à l'expérience gestionnaire, bien, c'est aussi dans nos cordes. Alors, c'était la fin du pitch. Je referme la parenthèse. Nicolas.
Adrien, merci beaucoup pour ton passage au temps d'une pause. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et surtout de te côtoyer au jour le jour.
C'est partagé.
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Les gestionnaires comme épicentre de la marque employeur des organisations, ça vous parle? Ben moi, après le podcast, je dois vous dire que oui. Gardons en tête que sans leur apport, ben un tel projet de marque employeur ne lèvera pas, ne vivra pas, mais ultimement ne verra jamais le jour. Le rapport est donc central, que ce soit dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet de marque employeur comme tel, mais également dans l'expérience que vos employés vivent au sein de votre organisation. Donc, tenez-le pour dit, tout comme pour les employés, il faut aussi prendre soin des gestionnaires. Pour en savoir plus sur le podcast, les émissions précédentes ou même sur le blog Pause RH, rendez-vous au www.pauserh.ca. Sur ce, fidèles auditrices et auditeurs, je vous remercie et je vous dis à une autre Pause RH. Au plaisir!